Vous écoutez RTL.
Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30.
Stéphane Carpentier, Bénédicte Tassard.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour RTL midi. Fidèle au poste, même en ce lundi, jour férié que l'on vous souhaite évidemment très agréable. Profitez bien et merci de nous rejoindre pour tout savoir de l'actualité, pour comprendre et pour commenter bien sûr. C'est votre émission à la veille d'une grève XL à la SNCF. Bonjour Bénédicte.
Bonjour, bonjour à tous.
Vos appels dès maintenant au 3210, vous êtes nos experts, vous avez la priorité. Prenez la parole sur tous les sujets et rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h. Mais d'abord, Bénédicte, donc un mardi noir sur les rails.
Grosse mobilisation des cheminots. Les retours du week-end de Pâques ce soir seront assurés normalement, mais ça dégénère demain matin avec 77% des conducteurs de train en grève. Du jamais vu depuis longtemps, les usagers se préparent à la galère demain et après-demain. Les syndicats sont satisfaits de l'ampleur du mouvement, mais le gouvernement dit ne pas être surpris par le taux de grévistes. De graves négligences et un manque d'entretien sur le manège mortel près de Lyon. Un mort et 4 blessés samedi après-midi à Neuville-sur-Saône. Les premières investigations ne laissent aucun doute possible sur les carences techniques. Agression sexuelle dans le monde de l'athlétisme. 2 entraîneurs sont dans le collimateur. La Fédération française s'engage à prendre des mesures. Payer pour garer sa moto ou son scooter en ville. Première expérimentation à partir d'aujourd'hui à Charenton-le-Pont, en banlieue parisienne. Une décision qui fait polémique. Invité de RTL Midi, le maire de cette commune du Val-de-Marne, Hervé Jiquel. Les familles des personnes autistes sont abandonnées, dénonce l'association SOS Autisme France. Sur RTL, en cette journée mondiale de sensibilisation, le 4e plan autisme attendu en fin de semaine. La météo, Patricia Charbonnier, de la douceur pour la fin de ce week-end de Pâques.
Oui, enfin des températures qui grimpent partout cet après-midi. On attend jusqu'à 21 degrés à Biarritz, 19 à Toulouse, 17 degrés à Paris comme à Lyon, 16 à La Rochelle, 14 degrés à Rouen et 13 degrés à Brest. Alors avec un temps qui reste sec sur la moitié sud du pays, on a simplement un voile nuageux, mais l'impression reste très agréable, mais toujours avec de fortes rafales de vent. Et attention, le risque d'avalanche reste très marqué sur les Alpes du Nord, sur la moitié nord. Là, le temps reste assez nuageux cet après-midi encore avec quelques pluies et même quelques orages dans le nord-ouest.
Les détails de Patricia, bien sûr, rendez-vous juste avant 13h dans la foulée. Une histoire comme tous les midis, c'est un jour sur la Terre avec Jean-Alphonse Richard et à 13h50, pas question de se priver de Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr concerne 2 villes d'Île-de-France qui décident donc de faire payer le stationnement aux 2 roues, moto, scooter. Le maire de Charenton viendra donc nous expliquer dans un instant. Est-ce qu'il faut les faire payer ces 2 roues? Eh bien, vous dites oui à 52%. C'est 43% de non sur notre site. Vos appels pour débattre dès maintenant, 3210, c'est un premier sentiment de Christian. Il est président d'un motoclub dans le Nord.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est complètement non. On est 2 roues pour justement économiser de la place et puis avoir les excès partout. Et c'est pas possible d'avoir des paiements pour les 2 roues. Je sais pas s'ils cherchent à récupérer de l'argent. Ça devient hallucinant d'avoir des réactions comme ça dans les communes. On fait pas partie du même monde.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est un chiffre qui a créé la surprise hier soir. 77% des conducteurs de train seront en grève demain. Et en général, 1 salarié sur 2 à la SNCF. Conséquence, les trains seront rares en région et sur les grandes lignes. 1 TGV sur 8, 1 TER sur 5 et 1 train sur 4 seulement sur les lignes banlieusardes d'Île-de-France. Attention, ce n'est qu'une moyenne. Ça sera difficile de voyager en heure creuse, voire totalement impossible. Et certaines branches ne seront même pas desservies de la journée. 0 train par exemple, sur les lignes R, U et P autour de Paris, les usagers s'y reconnaîtront. Pour les trains régionaux, 5% seront sur les rails et il y aura quelques autocars pour desservir certaines gares. Alors, les usagers se préparent avant le retour au travail demain matin. Allons voir à la gare Matabiau de Toulouse, Patrick Tégéraud. Apparemment, on a pris ses précautions.
Oui, on a pris ses précautions et pour l'instant, c'est la sérénité qui règne encore au pied du panneau d'affichage géant et pour cause, tous les trains sont encore affichés à l'heure. Jean-Paul a le sourire car il a pris ses précautions lui aussi.
De toute manière, je prévois à l'avance et je fais en fonction de la situation. On ne peut pas faire autrement.
Greg est australien, il va éviter le problème de justesse.
Ça me dérange un peu, mais aujourd'hui j'ai un train dans une demi-heure et je crois que ça va arriver à Paris avant l'heure qui qu'ils ont dit était le commencement de la grève.
Vous pensez que ça va déranger un petit peu vos déplacements en France?
Oui, je crois. C'est pas bon pour le tourisme. Parce qu'on ne sait pas de jour en jour ce qui va se passer. Hein.
De son côté, Michel n'est pas vraiment dérangé. Et puis surtout, elle soutient les grévistes.
Plus ou moins, oui. Parce que bon, s'ils ont des acquis, il ne faut pas qu'ils les perdent. Parce qu'après, tout le monde aura moins d'acquis.
Alors, un petit point de situation sur l'Occitanie, profitons-en. Aucun TGV demain, un train sur 10 pour les intercités de jour, aucun train intercité de nuit. Et pour les TER, 3 circulations sur 5. Les autres circulations pourraient être assurées par autocar.
Merci Patrick Tégéro dans la Ville Rose pour RTL. 48% de grévistes demain. C'est du jamais vu selon certains syndicats de cheminots, dont Sudrail et la CGC. Anaïs Bouissou, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une mobilisation inédite?
Non, il y a déjà eu d'énormes mouvements à la SNCF. Alors, ça ne date pas d'hier non plus. La plus grosse fronde, elle remonte à 30 ans. Du 18 décembre 1986 au 15 janvier 87, près d'un mois de mobilisation, 90% de personnel roulant en grève, des piquets reconduits de jour en jour malgré les évacuations de forces de l'ordre. Tout ça pour protester contre la rémunération au mérite des cheminots, combat gagné à l'époque pour les grévistes. L'autre mobilisation qui avait fait date, c'était il y a un peu plus de 20 ans, en 1995. Là, c'était près d'une vingtaine de jours contre la réforme des régimes spéciaux de retraite et contre un nouveau contrat d'avenir entre l'État et la SNCF. La mobilisation avait abouti au retrait des réformes par le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, et à la démission du président de la SNCF. Depuis, d'autres grèves se sont enchaînées année après année, en 97, en 2001, 2007 ou encore en 2010 et 2014. Mais jamais aussi longue, jamais aussi soutenue et pas toujours efficace pour mettre fin aux projets des gouvernements successifs.
Mais Anaïs, aujourd'hui, il y a quand même des différences avec ces précédents mouvements.
Là, la différence, c'est le choix de ce qu'on appelle, pour simplifier, une grève perlée, des arrêts de travail par roulement durant 2 jours tous les 5 jours. Et nous, on continue comme c'était le cas jusqu'à présent. L'objectif, c'est bien sûr de tenir plus longtemps, jusqu'au 28 juin, c'est ce qu'espèrent les syndicats. L'autre différence, c'est la loi dite du service minimum qui existe depuis 10 ans. Cette loi oblige les grévistes à se déclarer 48 heures à l'avance pour permettre à la SNCF notamment de prévenir les usagers des perturbations.
Merci Anaïs. Je me tourne vers Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour à vous.
Bonjour.
On a plusieurs questions. Est-ce que le gouvernement a sous-estimé le malaise? N'a-t-il pas pris assez au sérieux cette grève perlée de 3 mois? Et est-ce qu'il s'attendait vraiment à une telle mobilisation?
Eh bien écoutez, oui, le gouvernement dit qu'il s'attendait à ce que ces 2 premiers jours de grève se traduisent par une forte mobilisation. Il avait été prévenu par Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF. Le mouvement social sera important, a-t-il dit à l'exécutif. Un conseiller du Premier ministre explique aussi « c'est une réforme d'ampleur qui va toucher profondément la SNCF. Le statut des cheminots, c'est leur ADN, d'où une mobilisation attendue ». Derrière ces mots, on comprend l'idée du gouvernement. Faire comprendre qu'il veut faire passer une vraie réforme, pas une réformette. Les ouvertures de ce week-end ne doivent donc pas être considérées comme des concessions. Édouard Philippe a fixé dès le départ ce qui était négociable, comme la date de l'ouverture à la concurrence. L'exécutif refuse par contre de se prononcer sur la suite du mouvement. Ça serait imprudent d'abord. Et puis il table 1. Sur la lassitude de l'opinion confrontée à la galère des transports. 2. Sur la division du front syndical entre ceux qui acceptent de négocier et les autres.
Eh bien, on verra ça. Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Notons que ça sera un peu moins difficile dans les airs demain. 75% des vols seront assurés pendant la grève à Air France, signale aujourd'hui la direction.
Voilà, mardi noir donc en perspective, notamment sur les rails. Et c'est que le début, vous l'avez compris, la SNCF vous conseille de vous renseigner avant d'aller en gare via l'appli SNCF ou encore sur le site sncf.com. Les clients qui ont réservé un billet seront prévenus par SMS ou par mail. Voilà ce qu'indique la direction. Mais quelles répercussions pour les usagers? C'est l'occasion d'en parler avec Bruno Gazot, le président de la FNAUD. Bonjour.
Bonjour.
La Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Une grosse galère, on l'entendait en perspective pour tous les usagers. Dès demain, un TGV sur 8 en circulation en moyenne, un TER, un Transilien sur 5. Est-ce que d'abord vous attendiez à un mouvement d'une telle ampleur?
Non, je pense que, comme tout le monde, on est un peu surpris par l'ampleur que prend la grève, qui sera beaucoup plus importante que celle du 22 mars. Et surtout, ce qui nous préoccupe, c'est le mode d'organisation de la grève en 3 plus 2, enfin en 2 plus 3, qui sera sans doute du 3 plus 2, c'est-à-dire que la galère va continuer sans doute au-delà de mercredi soir. Hein.
C'est-à-dire, vous vous attendez donc à ce que ça dure 1 mois, 2 mois, vous la sentez comment, d'après les relations, les contacts que vous avez avec la direction de la SNCF?
Alors, sur la durée, ça, je ne peux pas me prononcer. Par contre, deux jours de grève, la SNCF ne remet pas en marche à l'instant T tous les trains, pour les trains du quotidien, donc à partir de jeudi matin. C'est ça mon inquiétude. Donc là, la grève, elle va durer au moins jusqu'à jeudi midi ou le temps que ça redevienne à la normale. Après, sur la durée, je dirais que l'intensité de la grève me conduit à demander aux deux parties, c'est-à-dire gouvernement et syndicats, de rentrer dans une phase de négociation plus intensive, de telle sorte qu'ils puissent trouver les compromis qui conviennent le plus tôt possible.
Bruno Gazot, la SNCF est très attendue sur l'information voyageurs. Normalement, la liste des trains en circulation doit être annoncée chaque veille de grève à 17h. Est-ce que vous serez, vous, très attentif à ce que cet engagement soit bien respecté ?
Absolument, on l'est. On avait mis en place une procédure de téléconférence entre nous pour région par région vérifier que les plans de transport étaient bien hier sur les sites de la SNCF et c'était le cas. Mais on sera vigilant à chaque fois. De même que nous serons vigilants sur les prix. Il n'est pas question que la SNCF augmente les prix parce que les gens vont se concentrer sur les jours où les trains circulent. Et de même, nous avons saisi le Premier ministre pour que les usagers puissent suspendre leurs abonnements chaque fois qu'il y a des mouvements de grève. Et il faut que ce soit inscrit dans une loi et c'est ce qu'on lui a demandé.
Parce que peuvent faire les usagers sur les remboursements des abonnements à part qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux personnellement ?
Sur les trains, ils ne doivent pas faire grand-chose. Sur les trains grandes lignes, la SNCF s'est engagée à tout rembourser pour ceux qui le demanderont, quels que soient les moyens au guichet, par Internet, etc. Donc, ça, c'est bien. Par contre, pour les trains du quotidien, en général, les conditions de remboursement, quand elles sont prévues, le sont dans les conventions entre les régions et la SNCF. Et donc, il y a autant de cas particuliers qu'il y a de régions. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit institutionnalisé et légalisé. Et nous avons demandé au Premier ministre d'inscrire ça dans une loi pour qu'on n'ait pas à le demander à chaque fois et dans chaque région.
Bruno Gazot, sur certaines lignes, il n'y aura aucun train sur certaines liaisons. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce qu'il faut un service minimum garanti partout ?
Nous demandons qu'il y ait de la part des cheminots un respect équivalent des usagers et en particulier de respecter le droit à la mobilité qui est également inscrit dans la loi, dans le code des transports. Et donc à ce titre, il faut qu'ils s'arrangent, comme ils se sont d'ailleurs arrangés pour qu'il n'y ait pas de perturbation lundi soir. Il faut qu'ils s'arrangent pour qu'il y ait quand même un minimum de service un peu partout, sinon la notion de service public n'a plus de sens. Alors le syndicat revendique en permanence de défendre le service public, c'est l'occasion de le prouver.
Merci Bruno Gazot, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Alors on attend vos appels dès maintenant. Au 3210, vos sentiments sur cette grève synonyme de vraie galère sur les rails. Comment comptez-vous vous organiser ? Est-ce que vous allez faire du covoiturage, du télétravail ? Quelles sont vos alternatives ? Y a-t-il déjà de la colère chez vous ? Et contre qui ? Cheminots, SNCF, gouvernement ? On en parle tous ensemble dès maintenant. Vos appels s'il vous plaît au 3210.
Une dernière minute dans le massif de l'Aiguille Rouge de Chamonix. Ce matin, une avalanche a emporté un groupe de randonneurs à ski. Bilan, un mort et plusieurs blessés. L'opération de sauvetage est encore en cours par les gendarmes du PGHM de Chamonix.
12h43, la suite de RTL Midi, c'est à venir bien sûr. Et dans un instant, retour sur l'accident de manège près de Lyon ce week-end. Un manège apparemment mal entretenu. A tout de suite.
RTL Midi. Stéphane Carpentier. Bénédicte Tassard.
L'exploitant du manège accidenté de Neuville-sur-Saône, près de Lyon, est toujours en garde à vue. Il devrait être déféré au parquet dans l'après-midi. Un expert judiciaire a été commis dès avant-hier. Samedi après-midi, un père de famille a trouvé la mort. Il était dans une nacelle avec sa compagne et son fils, lui légèrement blessé. Le rapport de l'expert n'est pas attendu avant plusieurs jours, Arnaud Grange, mais on constate déjà sur place que l'attraction n'était pas bien entretenue.
Oui, l'enquête a d'ores et déjà fait apparaître des carences dans l'entretien du matériel, un point important sur lequel vont continuer de travailler les enquêteurs car il pourrait expliquer les problèmes électriques, hydrauliques et mécaniques du manège. L'expert a notamment constaté une rupture du vérin central d'après une source proche de l'enquête. Plusieurs témoins évoquent un fonctionnement anormal de la machine. C'est le cas de ce passager. Il s'est présenté de lui-même aux gendarmes qui procédaient à des constatations sur le manège pour indiquer que le dimanche précédent, il avait remarqué un fonctionnement inhabituel.
La seule chose vraiment que j'ai trouvé pas normale, vraiment, c'est qu'il se met à tourner vite en accélérant trop bas, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas mettre les jambes par terre, ça aurait pu être dangereux. Enfin, je veux dire, vous pouvez même vous casser le genou, quoi.
Des problèmes au niveau des dispositifs de sécurité ont également été constatés par les enquêteurs, en particulier sur la nacelle où était installée la victime. Ils étaient trois à bord alors qu'il n'y avait que deux ceintures de sécurité. Une information judiciaire devrait être ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires aggravées en raison de la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité et de la mise en danger de la vie d'autrui.
Arnaud Grange, à Neuville-sur-Saône pour RTL.
Les langues se délient toujours après l'affaire Weinstein. Cette fois, c'est l'athlétisme qui est secoué par un dossier de violence sexuelle. C'est une révélation du quotidien Le Monde. Deux techniciens français de haut niveau sont accusés l'un de viol, l'autre d'agression sexuelle par certaines athlètes. Agathe Landel, entraîneur accusé de viol, est une personnalité assez connue.
Oui, il s'appelle Giscard Samba et son talent d'entraîneur est clairement reconnu dans le monde de l'athlétisme. Plusieurs de ses athlètes ont déjà brillé sur des podiums internationaux. Il y a plusieurs mois, une de ses anciennes sportives porte plainte contre lui. Le Monde a aussi interviewé plusieurs autres femmes. Elle confirme que beaucoup connaissaient ses comportements déplacés avec les filles, mais que tout le monde fermait les yeux.
Quant au deuxième agresseur, Agathe, agresseur présumé, son avocat a décidé de prendre la parole.
Oui, car l'entraîneur est accusé par une de ses anciennes athlètes de lui avoir mis une main aux fesses et de lui avoir fait des remarques très suggestives. Hubert Delarue, l'avocat de l'entraîneur.
Ces faits sont intégralement et totalement contestés par M. Machat. Nous sommes dans une période tourmentée. Je sais bien que c'est le syndrome Weinstein. C'est à la mode, c'est tendance. On livre Machat aux chiens. C'est absolument scandaleux et je peux vous indiquer que nous n'allons pas en rester là.
L'entraîneur va déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et il comparaîtra devant la commission disciplinaire de la Fédération d'athlétisme la semaine prochaine.
Merci Agathe Landais. On précise que cette Fédération française d'athlétisme se porte partie civile dans les deux dossiers et va lancer une campagne d'information pour lutter contre l'emprise mentale de certains entraîneurs.
Prendre un ticket au parc Maître pour son scooter ou sa moto, c'est déjà le cas depuis ce matin à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne. Et demain, même mesure à Vincennes, dans le même département. Ces deux villes d'Île-de-France sont les premières à tester le dispositif dans notre pays. 1,50€ pour 2 heures à Vincennes ou 70 centimes par jour pour les personnes titulaires d'une carte résident. Alors, invité de RTL Midi, Hervé Jiquel, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes le maire Les Républicains de Charenton-le-Pont. Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place ce stationnement payant pour les deux roues motorisées ?
Alors oui, Charenton sera précurseur en la matière. Nous sommes, comme vous le savez, dans l'hypercentralité de l'agglomération parisienne, avec énormément de flux quotidiens, que ce soit les Charentonnais résidents, mais également les salariés qui se rendent sur notre territoire. Et depuis plusieurs mois, peut-être années, nous remarquons de nouveaux usages, de nouvelles méthodes de mobilité, en l'occurrence avec l'utilisation des deux roues. Scooters, motos, aujourd'hui fleurissent sur la commune de Charenton et je crois d'une manière générale à Paris et sur la première couronne. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité m'interroger sur ce phénomène et autant que possible l'accompagner. C'est ce pourquoi, dans le cadre de la gestion du stationnement qui nous incombe pleinement depuis le 1er janvier dernier, j'ai souhaité mettre en place ce dispositif. J'estime en effet que les voitures ont toute leur place sur la voirie, les deux roues également, et qu'à cet égard, ils ne sont pas étrangers désormais à cette réglementation. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité instaurer cette tarification.
Hervé Jiquel, qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui pensent que cette mesure est une opération pour faire entrer de l'argent supplémentaire dans les caisses ?
Alors nullement, parce que ça n'est absolument pas à l'échelle et je n'aurai très certainement pas les moyens humains de contrôler l'intégralité des deux roues qui chemineront sur le territoire de Charenton. C'est tout simplement une mesure de réglementation complémentaire aux politiques de stationnement en vigueur. Et c'est aussi une mesure incitative, c'est aussi une mesure pédagogique pour inciter les propriétaires de deux roues, qu'ils soient charentonnais ou extérieurs, ils sont nombreux à venir à Charenton travailler.
Mais Hervé Jiquel, vous n'avez pas consulté les propriétaires de deux roues avant ?
Écoutez, j'ai reçu la Fédération des motards en l'occurrence. J'ai à plusieurs reprises au cours de l'année précédente communiqué sur ce dispositif qui allait évoluer. Et comme vous le savez, cette politique de stationnement dévolue aux villes, notamment avec l'instauration du forfait post-stationnement depuis le 1er janvier dernier, nous oblige, je crois, à prendre des mesures complémentaires. Et j'accompagne d'ailleurs cette disposition. J'ai communiqué à l'échelle de cette ville pour préciser que nous allions créer de nouvelles places, en l'occurrence une cinquantaine, au-delà donc des 500 places préexistantes.
Voilà, précision importante. Merci à vous Hervé Jiquel, maire de Charenton-le-Pont, donc où désormais on paye pour stationner à deux roues. Ça va vous faire réagir, à la fois habitants, automobilistes et conducteurs de deux roues, de motos ou de scooters. Vous êtes les bienvenus au 3210, 3210, vos sentiments. Dès maintenant, dans un instant, focus sur la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. A tout de suite.
RTL Midi, Stéphane Carpentier, Bénédicte Tassard.
600 000 personnes autistes en France, elles et leurs familles attendent le 4e plan national pour le début de ce mois d'avril. La France est en retard sur la scolarisation des enfants, mais surtout sur la prise en charge des adultes. Le parcours du combattant est long. Et ce matin sur RTL, en cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, Olivia Catan, la présidente de SOS Autisme France, a constaté que rien ne bouge sur le front politique.
Les familles sont abandonnées. Elles sont abandonnées. Alors, il y a des plans autisme qui se multiplient. Il y a de la communication à outrance avec les autistes à l'Élysée, les autistes là. Bon, Brigitte Macron a l'air d'être concernée. Moi, je l'ai rencontrée avant les élections. Elle est concernée parce que, voilà, elle a des amis qui ont des enfants autistes. Elle sait à peu près ce que c'est. Mais elle ne sait pas ce qu'est le quotidien. C'est pour ça que je l'invite à passer 24 heures chez moi, pour qu'elle comprenne ce qu'est un quotidien de maman d'enfant autiste. Moi, je me suis couchée à 3 heures du matin cette nuit, parce que mon fils ne dort pas, parce qu'il y a des problèmes de métabolisme, qu'on n'a pas de médecin. On n'a pas de médecin. C'est ça le problème. Il n'y a pas de parcours de soins aujourd'hui pour une personne autiste.
Olivia Catan avec Yves Calvi ce matin sur RTL. Alors votre enfant ou un de vos proches est autiste. On attend bien sûr vos témoignages, votre vécu au 3210. Appelez-nous dès maintenant pour nous raconter le quotidien de cette personne autiste. N'hésitez pas, 3210, 3210.
À la Ghouta orientale, bientôt entièrement reconquise par les forces de Bachar el-Assad. Les soldats syriens et l'armée russe sont en train de conclure une victoire retentissante face aux rebelles. Ces derniers, Christophe Decroix, aurait accepté de se retirer de cette ultime enclave à Douma.
Oui, selon la télévision d'État, des combattants de Jaïch al-Islam et leurs familles ont été évacués ce matin du dernier bastion insurgé. Un accord semble avoir été trouvé entre ce groupe rebelle islamiste et l'armée russe qui soutient le régime syrien. Les Russes pourraient déployer une police militaire dans la Ghouta pour permettre l'évacuation des groupes combattants vers le nord du pays. Plus de 45 000 personnes, dont les trois quarts de civils, ont rejoint ces 10 derniers jours les territoires rebelles du nord-ouest. Les civils qui sont les principales victimes du déluge de feu déclenchés par le régime. Plus de 1600 tués ont en effet du mal à croire aux promesses de réconciliation de Bachar el-Assad. Pour le régime syrien, cet objectif de la Ghouta était devenu prioritaire. Cette enclave, autrefois surnommée le verger de Damas, se trouve aux portes de la capitale syrienne. C'est de là que les insurgés tiraient des obus et des roquettes sur Damas. La Ghouta a été l'une des premières régions à se manifester en 2011 pour réclamer des réformes. Sa chute marque en effet l'une des pires défaites pour la rébellion.
Christophe Decroix du service étranger de RTL. Au Nigeria, dans une grande ville du nord-est, une attaque de Boko Haram a fait hier soir au moins 18 morts et 84 blessés. Une attaque terroriste qui a duré près d'une heure et parmi les insurgés se trouvaient au moins 7 kamikazes. Toujours à l'étranger, sachez que la station spatiale chinoise a fini par atterrir dans l'océan Pacifique Sud. Elle est entrée dans l'atmosphère cette nuit. Après 2 ans d'évolution incontrôlée en orbite, l'appareil s'est désintégré en plein vol, en regagnant la Terre.
Je vous rappelle la dernière minute qu'on vous a donnée dans RTL Midi. C'est cette avalanche, il y a quelques minutes, sur les hauteurs de Chamonix. Une avalanche qui a emporté un groupe de randonneurs à ski. Le bilan est d'un mort et plusieurs blessés. Et l'opération de sauvetage est toujours en cours sur place. On y revient dès le début du Tout Info à 13h. Dans un instant, la météo complète. Patricia Charbonnier, l'endroit où il faut être cet après-midi, c'est le Pays Basque. Ses plages, 21 degrés. A tout de suite.
RTL Midi.
La météo, Patricia Charbonnier, avec un après-midi plutôt agréable et du soleil au sud.
Oui, du soleil, mais seulement pour la moitié sud du pays. On a simplement un voile nuageux, le vent du sud qui souffle assez fort sur toute la moitié sud. Et puis, on le rappelle, le risque d'avalanche qui reste toujours très important sur les Alpes du Nord. Sur la moitié nord, là, le temps est encore très nuageux cet après-midi, avec en plus de la pluie et même quelques orages dans la partie nord-ouest. Et cette instabilité est en train de gagner du terrain vers les Hauts-de-France et l'Île-de-France, avec des températures qui sont en hausse partout. Et cet après-midi, on retrouve enfin des températures printanières avec 21 degrés à Bayonne, 20 degrés à Agen, 17 à Paris et Lyon, 16 degrés à La Rochelle et Strasbourg, 15 degrés à Lille et 13 degrés à Quimper.
Et on profite de cette douceur, Patricia, parce que demain, c'est reparti pour la pluie.
C'est reparti pour encore 2 jours de mauvais temps avec beaucoup d'instabilité. Demain, des averses dès demain matin sur le nord-ouest du pays, quelques pluies près de Golfe du Lion jusqu'au Massif central. Et dans l'après-midi, cette instabilité va gagner quasiment tout le pays. Ce sera très instable entre les frontières frontière du Nord, la Normandie, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Dans toute cette zone, des averses localement fortes, des pluies soutenues et même des orages de grêle. De la pluie également pour le sud-est du pays. Alors avec des températures qui restent plutôt douces pour demain, 5 à 14 degrés pour demain matin et 12 jusqu'à 22 degrés dans l'après-midi. 12 degrés à Alençon, 14 degrés à La Rochelle, 16 à Lille, 17 à Paris, 21 à Montauban et 22 degrés à Biarritz. Ce sera encore très instable pour la journée de mercredi. Jeudi, on retrouve un temps calme, mais là, les températures baissent et on va repasser en dessous des normales de saison. Mais à partir de vendredi, là, c'est vraiment le retour du beau temps avec une douceur très printanière.
Enfin, une bonne nouvelle. Merci Patricia. Et avec le Moscou-Paris, on note que le mois de mars a vraiment été hivernal. Il a fait plus froid qu'en janvier. 8,2 degrés de moyenne en France contre 8,4 degrés au début de l'année.
RTL 13h.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Bénédicte Tassard.
Et le tout info des auditeurs ont la parole avec vous Stéphane.
Direction d'abord Chamonix, donc sur les hauteurs du massif de l'Aiguille Rouge, avec ce matin une avalanche qui a emporté un groupe de randonneurs à ski. Le premier bilan avec Éric Fournier, les maires de Chamonix, et au téléphone RTL de Serge Peillot.
Le bilan s'établirait à une personne décédée et trois personnes blessées. La personne décédée serait le guide qui accompagnait le groupe et les trois blessés seraient membres soit de ce groupe, soit d'autres groupes qui étaient aux environs. On a eu des conditions de neige absolument exceptionnelles, des niveaux de précipitation comme on en a rarement connu. Hein. Météo France nous annonçait des niveaux de précipitation qui étaient les plus importants depuis 1934 en début de saison. On voit à quel point il faut être prudent, effectivement, dans l'ensemble des itinéraires de ski de printemps qui sont employés. Donc effectivement, appel à la plus grande vigilance dans ces périodes, avec le redout qui s'annonce notamment.
Le début demain de la grève longue distance des cheminots à la SNCF, grève perlée qui démarre avec un mardi noir, forte mobilisation des grévistes et un trafic très perturbé. Pour rappel, un TGV sur 8 en moyenne seulement 2 allers-retours entre Bordeaux et Paris. Demain, ce sera même un TGV sur 10 sur l'axe sud-est. La galère pour les usagers des TER et des Transiliens, 1 sur 5, pas plus et parfois moins. Exemple, un TER sur 10 demain dans les Hauts-de-France. Aucun Transilien entre Montargis et la capitale. Au niveau national, 7 lignes d'intercité ne seront carrément pas desservies. En Île-de-France, le pire pour les usagers des RER C et D, 1 sur 5 ou 1 sur 4. Les prévisions, bien sûr, détaillées sur notre site rtl.fr. Cette première étape de cette grève durera jusqu'à jeudi matin, 8h. Grève à laquelle se préparent les usagers. Exemple à Toulouse, les mots et les grimaces d'Anne Gaëlle. Elle est étudiante.
Je rentre chez moi à Bordeaux aujourd'hui au lieu de rentrer demain pour pouvoir assister à mes cours. Parce que apparemment demain, il n'y a que seulement 12% des TGV qui sont en circulation entre Bordeaux et Toulouse.
Là, ça vous a posé un problème? Il a fallu changer le billet? Comment ça s'est passé?
J'ai pas changé de billet. À l'avance, j'ai su qu'ils ont donné des dates de grève. Et à l'avance, j'ai pris mes précautions en prenant un billet. Un jour où je serais sûre qu'il n'y aurait pas de problème.
Anne Gaëlle, usagère de la SNCF au micro RTL de Patrick Tégiro. Vos appels dès maintenant au 3210. Comment vous organisez? Vous nous racontez. 3-2-1-0 dans les airs. Demain, quatrième jour de grève des personnels d'Air France pour réclamer des hausses de salaire. 75% des vols seront assurés, selon la direction. La piste criminelle ne fait aucun doute dans les Yvelines après l'incendie du week-end dans une école de la commune de Chanteloup-les-Vignes. Beaucoup de dégâts, des salles ravagées par les flammes, un où plusieurs individus ont fracturé les portes et déclenché des départs de feu dans l'établissement, bien sûr fermé. Le ras-le-bol de la maire de la ville, Catherine Arenoux, au micro d'Adeline Courson.
Quand vous arrivez dans une classe noire, sombre, et que vous voyez des doudous brûlés, vous ne comprenez pas bien, c'est un peu lourd. C'est pour ça que j'ai eu envie. Là, ça a été plus fort que moi. Là, le ras-le-bol a été décrit.
À l'étranger, un attentat meurtrier au Nigeria. Une attaque de Boko Haram a fait 18 morts et 84 blessés hier soir. Le groupe terroriste a frappé la ville de Maiduguri au nord-est du pays. Le football est ce soir l'ultime rencontre de la 31e journée de Ligue 2. C'est Lens qui accueille Châteauroux. Le coup d'envoi, 20h45.
L'histoire du lundi, c'est un jour sur la Terre avec vous, Jean-Alphonse Richard. Bonjour.
Bonjour.
Un jour sur la Terre nous conduit au Havre avec une faussaire vraiment très amateur.
Oui, on pourrait dire effectivement qu'il s'agit ici de la version très très bas de gamme de Touche pas au Grisby. Pas d'imprimerie sophistiquée pour cette femme de 27 ans qui a du mal à joindre les deux bouts et qui décide un beau jour de se lancer dans la fabrication de petites coupures de 5, 10 et 20 euros. Peu importe qu'elle ne soit pas vraiment, comme dirait Audiard, la Léonard de Vinci du faux Albin. Une simple photocopieuse et une imprimante suffisent. Le papier est du A4 ordinaire, les billets découpés au cutter. Eh bien, ça va suffire à faire illusion dans quelques commerces de Menneville-la-Goupil et de Bretteville du Grand Co. Petites coupures pour petits achats, un pull bon marché, une bouteille de jus de fruits et allons-y, une cartouche d'encre pour continuer à faire tourner l'imprimante à euros. Avec ses billets de Monopoly, la faussaire s'est vite fait rattraper. 2 mois avec sursis, le tribunal ayant tenu compte de la médiocre qualité de son travail.
Le Léonard de Vinci des bonnes histoires. Jean-Alphonse Richard, Un jour sur la Terre. Des histoires à podcaster sur le premier site radio de France, RTL.fr.
Vous écoutez RTL.